En compagnie du photographe et cinéaste indépendant Victor Vargas Villafuerte, né au Mexique et vivant à Montréal depuis 11 ans. Alors, il expose actuellement à la Maison de la Culture Plateau Mont-Royal jusqu'au 10 mars une série de photos et une vidéo relativement à la situation de ses compatriotes mexicains, travailleurs saisonniers au Québec. Un projet pertinent financé par le programme Vivacité Montréal du Calque, le Conseil des arts et lettres du Québec. Eh bien, bienvenue, Victor Vargas Villafuerte.
Oui, bonjour à tout le monde et je suis ravi d'être ici.
Je suis vraiment très ravi aussi que vous soyez venu ici à Radio Centre-Ville. Alors, peut-être nous parler de ce choix de sujet. Je pense que vous êtes un photographe qui avait une approche sociologique. Hein? La situation de vos compatriotes vous préoccupe particulièrement?
Oui, bien sûr, ça me préoccupe. Et en même temps, quand j'ai commencé le projet, parce que ça fait longtemps, ça faisait pas longtemps que moi, j'étais immigrante aussi. Et j'avais aucune idée que ça s'est passé. Parce qu'en plus, les villages où j'ai pris la plupart des photos, c'est comme 40 minutes en voiture de Montréal. J'avais aucune idée. C'est juste qu'un ami m'a présenté un ancien travailleur que je me suis rendu compte tout cet univers qui existait juste à côté de la ville.
Vous avez été donc étonné par cette découverte?
Oui, j'étais vraiment étonné parce que l'ancien travailleur m'a dit comme, hey, tu es mexicaine, tu connais déjà Saint-Rémy, moi comme non. Ben, si tu es dans les petits Mexiques, là, les dimanches, c'est comme les Mexiques. Je suis allé, évidemment, c'était comme les Mexiques, sans les femmes, que c'est un peu la base de mon projet, mais c'était là. On avait le football, on avait un peu... les sommes avec leur vie quotidienne.
Alors?
Ouais. Et dès là, j'ai commencé avec la curiosité. J'allais chaque dimanche et j'ai commencé à
connaître. Et cet endroit-là, c'est précisément Saint-Rémy, hein?
Oui, c'est Saint-Rémy en Montérégie. Mmh. Ouais.
Alors, chaque dimanche, vous alliez faire des petites visites?
Oui, je faisais des petites visites et c'était comme deux choses. En même temps, je me sentais un peu comme chez moi. Pendant une journée, je me sentais au Mexique et de l'autre côté, je me suis dit comment il faut que le monde au Québec sache ça, parce que la plupart parmi mes amis québécois qui ça faisait longtemps qu'ils habitaient à Montréal, ou sinon plus, ils savaient que...
Oui, on est au courant qu'il y a des travailleurs saisonniers, mais qu'il y a des initiatives comme ça pour recréer un peu le pays d'origine, le pays d'où proviennent les travailleurs. Ça, on n'était pas au courant, on n'est pas très au courant de ces... Il semble-t-il même qu'il y a un festival à Saint-Rémy, un festival mexicain.
Oui, il y a un festival où ils essayent, en plus de faire le... la rencontre entre les Québécois et les Mexicaines, mais plus que je faisais des conversations avec les travailleurs, plus je me rendais compte de leurs histoires et où était la base de leurs problèmes. Parce que il y a déjà des projets qui parlent des fois de certaines difficultés des travailleurs, mais pour moi, le plus difficile était d'être éloigné de leur famille. Alors, c'est là que j'ai décidé comme, il faut montrer ça.
C'est là que l'idée de votre projet vous est venue. Alors, d'une part, ces visites-là vous ont permis de vraiment d'élaborer un projet vraiment qui semble très significatif pour vous, puis qui vraiment l'est aussi pour nous aussi. Alors, on est content de découvrir cette réalité-là des travailleurs saisonniers. Mais d'autre part, je pense que ça a pu vous aider vous-même à vous intégrer au Québec, peut-être, ces visites-là.
Oui, ça m'a aidé parce que aussi ça m'a montré comment c'est important de parler français. Parce que les travailleurs, eux, ils ne parlent pas français. Je dirais 99%, ils ne parlent pas français. Ils n'ont pas l'opportunité de s'intégrer parce que la vie est vraiment difficile pour eux. Parce qu'ils travaillent toute la semaine dans des fermes qui ne sont pas à côté de Saint-Rémy. Puis, ils font la visite de Saint-Rémy seulement jeudi soir ou dimanche en après-midi. Et c'est pas mal juste pour faire leurs achats, de jouer un peu football, envoyer de l'argent. Mais à part ça, c'est au travail ou...
Ils sont presque continuellement au travail?
Oui. Et quand ils sont pas au travail, il faut que fassent leur propre repas, qu'ils lavent leur linge, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment difficile. Et quand ils ne sont pas en train de faire ça, ils sont au téléphone avec leur famille.
Oui, ça, parce que ça, c'est une autre préoccupation, hein? L'ennui de la famille, parce qu'ils partent quand même plusieurs mois. Hein?
Oui, je dirais en moyenne, c'est comme 5 mois. Des fois, il y a quelques-uns qui sont plus que ça. Alors, pour moi, j'avais l'identification. Parce que même en parlant français et en étant intégré à la société québécoise, ben, ça me manque, ma famille. Mais pour eux, c'est
vous-même,
encore...
votre famille est au Mexique?
Oui, oui. Moi-même, ma famille est au Mexique. Mais pour eux, c'est plus difficile parce que des fois, ils sont dans des situations plus vulnérables. Leur famille aussi, c'est dur pour... parce que je parle dans mon projet un peu les points de vue des sommes des travailleurs. Mais il faut dire que la vie pour les femmes au Mexique, ça devient vraiment difficile parce qu'il faut qu'elles prennent charge de toute la famille. Alors, ça se multiplie le travail pour les hommes ici et pour les femmes là-bas.
Alors oui, c'est énormément de préoccupations, tant pour les travailleurs saisonniers d'ici que les familles qui sont au Mexique ou au Guatemala. Hein. C'est quelque chose. Comment ça s'est déroulé le projet? Premièrement, vous êtes venu ici, vous avez fait des visites, vous avez établi contact avec les travailleurs?
Oui, c'est ça, j'ai établi le contact et le projet, ça a évolué. Au début, c'était juste un tout petit projet qui a commencé pour l'école, qui c'était sur les dimanches à Saint-Rémy. Après ça, c'était l'autre pas, qui c'était comme les autres journées, pas seulement les dimanches. Et là, j'ai dit comme, oh, il faut montrer aussi le Mexique. C'est là que j'ai eu la chance d'avoir la subvention des vivacités. Et je suis allé chez les travailleurs au Mexique. Et ça, ça m'a ouvert le jeu de toutes les différences parmi les travailleurs. Parce qu'il y a des travailleurs que leur situation est vraiment difficile économiquement. Et il faut qu'ils payent pour des traitements de son fils qui est malade. Mais il y a aussi des autres travailleurs qui sont propriétaires des terres. Alors, c'est un peu ironique parce qu'ils sont des employés ici, qui travaillent pas mal comme des pions, mais là-bas, ils sont eux les propriétaires, mais qui tiennent leur terre grâce à l'argent qu'ils font ici.
C'est vraiment, je suis totalement étonnée.
Oui.
On croirait que ce sont des gens démunis qui viennent ici, mais non, il y a des propriétaires au Mexique qui viennent travailler ici, sur les terres, dans des emplois, la plupart non occupés par des Québécois de souche.
Oui, non, parce que c'est vraiment difficile. Je vous dis comme tous les travailleurs qui viennent du Guatemala, du Mexique, eux sont habitués à travailler comme ça parce qu'ils sont pas mal de travailleurs agricoles aussi au Mexique.
C'est ça, oui. Est-ce que vous êtes rendu jusqu'à leur lieu de travail, par exemple?
Oui, c'était difficile parce que beaucoup de ces employeurs voulaient pas que ça se montre.
Oui, hein, ça peut être insécurisant, ça peut être, on peut être craintif de montrer les conditions de travailleurs, des travailleurs saisonniers.
Oui, parce que si on compare leurs conditions avec des travailleurs québécois, comme...
C'est incomparable.
C'est incomparable. Comme il n'y aurait pas beaucoup de travailleurs québécois qui feront ce travail avec cette paye. Alors, et une autre chose que je trouvais, c'est qu'il y avait toutes sortes d'employeurs. Comme je ne veux pas dire que... Il y a des employeurs, que tous les employeurs sont méchants. Il y avait des employeurs comme vraiment gentils.
Comme peut-être qui résident à Saint-Rémy, peut-être?
oui, qui établissaient une liaison plus au-delà des juste « Oh, je suis ton boss, tu travailles pour moi », qui sont allés au mariage des travailleurs et à Lambert. Mais il y avait des autres où il en profitait des travailleurs. Alors, j'ai pu trouver des trucs.
Vous avez pu être témoin de différences de conditions de travail?
Mon documentaire ne touche pas à ça, parce que ça a déjà été touché par des autres projets. Moi, j'étais plus intéressé pour montrer l'aspect psychologique et émotionnel d'être éloigné de la famille. Parce que pour moi, c'est un problème qui arrive avec n'importe quelle ferme où il travaille. Parce qu'il y a des travailleurs que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent ici, qui aimeraient que leur famille vienne avec eux. Si ce n'est pas pendant les 6 mois, juste immigrer ici. Ça fait 20 ans, ils payent leurs taxes. Ils aimeraient bâtir une vie. Il y a quelques-uns c'est vraiment une minorité, mais qui parle déjà français. Alors, pour moi, c'est comme, hey, ça serait une bonne idée de revisiter les règles de l'entente entre le Mexique et le Canada et dire, hey, pourquoi pas amener la famille?
Quelle bonne idée. Alors, écoutez, c'est quelque chose que vous souhaiteriez mettre de l'avant avec votre démarche photographique?
Oui, j'aimerais ça, au moins d'ouvrir les débats, hein? De créer la conscience. Et j'aimerais aussi montrer les projets au Mexique, parce que ça arrive aussi qu'au Mexique, le monde a une idée comme « Oh, tu pars au Canada, tu fais plein de l'argent, c'est facile, tu arrives, tu es riche. » Mais non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de sacrifices.
Absolument. Et vous avez donc sur place, à la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, vous montrez cette réalité-là. Il y a des photos, je pense, qui peut-être nous présenter votre exposition. Les photos qu'on peut voir, ce sont des travailleurs d'ici?
Oui, ce sont des travailleurs, je vous dis, dans la région autour de Saint-Rémy. Ce sont des travailleurs mexicains. Je suis ici seulement sur les travailleurs mexicains.
Vous avez suivi 6 personnes?
Oui, 6 personnes. C'est pas mal divisé en 3 les projets. La première, c'est leur vie quotidienne. On les voit en train de travailler, de téléphoner à leur famille. Après ça, on voit des portraits des travailleurs ici et un diptyque avec leur famille au Mexique.
Ça, c'est vraiment touchant, comme ces duos-là. Alors, il y a quelques duos à voir. Hein?
Oui. Et là, on voit vraiment les différences dans leur esprit, quand ils sont avec leur famille, quand ils sont toutes seules ici.
Qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Oui.
Et ce que j'ai vu comme différence quand j'ai fait les portraits ici, c'est que physiquement, les travailleurs étaient ici, mais ça manquait la moitié de leur âme était au Mexique.
D'où le titre de votre expo, hein, la moitié lointaine.
Oui, c'est ça. Et quand j'ai laissé photographier au Mexique, on voyait qu'ils étaient complets.
Qu'ils étaient épanouis.
Oui, c'est ça. On voyait. Oui, c'est ça. Ça manquait rien quand ils étaient avec leur famille. Puis la troisième partie de l'expo, c'est une vidéo que j'ai fait.
Vous avez une vidéo vraiment captivant. Écoutez, parlez-nous de votre vidéo. Vous avez, je pense, choisi de présenter différentes situations vécues par les travailleurs saisonniers d'ici. Hein?
Oui, c'est ça. Ce que je fais, j'ai fait un parallèle. Je montrais des images de leur place d'origine, de leur maison, en parallèle avec leur témoignage de leur expérience ici. Alors, je l'ai laissé enregistrer ici. Et après ça, je l'ai monté avec des images de chez eux, un peu pour complémenter l'expérience.
Donc, les témoignages ont été réalisés ici, au Québec.
Oui, ici. Alors, c'est pour ça qu'on sent un peu la nostalgie quand eux parlent. Ça rappelle de leur vie au Mexique. Et j'essayais de montrer un peu toute l'expérience. Ça commence avec le premier souvenir d'un fils. Son père venait travailler au Canada et maintenant lui c'est un travailleur. Alors ça commence comme ça et j'essaye de donner la parole aux travailleurs quand même.
Tout à fait. Alors il y a vraiment toutes sortes de témoignages. Peut-être si vous nous donniez quelques exemples. En tout cas, moi j'en ai en tête là.
Oui, je pense les plus durs, celles qui m'ont touché le plus, c'était un travailleur qui habite dans une région. Où on a le problème des cartels de drogue, la violence. Et il dit que ça reste toujours dans sa tête, les dangers, qu'il pense laisser sa famille toute seule.
Oui, c'est ça, hein? Parce que lui, il est ici, il travaille, sa famille est seule là-bas, peut-être sans défense. Et il se demande même si, à son retour, sa famille sera pas aussi tout autant en danger à son retour. Pour quelle raison?
Oui, parce que dans leur village, il avait comme une série de kidnappings. Alors, ils visaient les familles des travailleurs parce qu'ils savaient qu'eux, ils sont l'argent, ils sont des dollars, alors c'est eux qui ont pas kidnappé. Alors, c'est une pression immense.
Immense.
Oui. Et comme ça, il faut aussi penser au niveau de l'intimité. C'est comme des couples, ça n'existe pas pendant 6 mois.
Absolument. Et puis, il y a aussi des familles qu'on peut pas, que les travailleurs saisonniers ne peuvent pas joindre, qui n'ont pas le téléphone.
Oui, c'est ça, parce que des fois, leur famille habite dans une région éloignée au Mexique, il n'y a pas de moyens de communiquer avec eux. Maintenant, ça commence à changer un peu avec Internet et l'accès, mais quand j'ai commencé le projet, il y avait encore plein que c'était cher de téléphoner, que c'était difficile de faire comme matcher les horaires. C'est ça.
Alors, vous me parlez beaucoup de projets, de début de projet. Donc, c'est un projet qui s'est étiré sur une bonne période de temps. Combien de temps ça a pu durer, ce projet-là?
Oui, ça a duré 3 ans que j'y allais toutes les étés.
Oh, c'est quelque chose comme investissement?
Oui, et après ça, c'était un mois que j'ai fait les parcours au Mexique. Et après ça, monter tout ça, le présenter, c'était comme 6 mois de plus. Alors, je dirais comme 4 ans.
Presque 4 ans?
Ouais, 4 ans, oui.
Alors, c'est tout un investissement. Donc, on peut voir vraiment, là, dans le cadre de cette exposition, la moitié lointaine, et quel titre très significatif, là, la Maison de la culture, Plateau Mont-Royal, jusqu'au 10 mars. Vous ne faites pas que dans la démarche photographique sociologique, hein? Vous avez aussi une toute autre démarche. Si vous parliez un peu de votre autre volet de photographe.
Oui, c'est un peu drôle parce que des fois, le monde qui regarde l'autre démarche artistique.
Oui, j'étais même un petit peu déroutée de voir votre autre démarche.
Artistique et j'ai sont un peu choqués parce que c'est complètement différent. C'est une approche complètement différente. Quand je fais les côtés documentaires, c'est comme des rien toucher, rien changer.
Même si ça, le documentaire vise vraiment à présenter des faits, donc c'est peut-être moins déstabilisant, mais là, vous avez vraiment un autre volet à votre démarche photographique qui est plus de l'ordre de l'imaginaire, hein?
Oui, c'est de l'imaginaire, c'est de trouver la beauté dans les côtés obscurs de l'existence de l'âme, de l'être humain. Alors, quand le monde me demande un peu, qu'est-ce que tu fais avec ton autre démarche? J'ai fait des photos de monstres. Des monstres, et là, il y a comme un kaléidoscope d'approche de la monstruosité. Parce que je le vois aussi comme quelque chose qui n'est pas complètement négatif. Parce que la monstruosité, c'est aussi être un peu différente. Et un peu différente, ça te donne l'aura d'être spécial. Alors, j'aime ça, explorer ça, les côtés obscurs, les cauchemars, tout ça, ça fait partie de nous. Et j'essaye de trouver la beauté dans ces côtés.
Ou d'apprivoiser ce monstre intérieur qui nous habite tous.
Ouais.
Mais est-ce que c'était une source d'inspiration qui était présente avant que vous arriviez au Québec?
Oui, ça, je vous dirais, j'étais toujours fasciné par le monstre depuis que j'étais enfant. Quand ma mère me racontait des contes de fées, moi, ce qui me fascinait, c'était pas les fées, c'était les dragons, c'était les monstres en bas du lit, tout ça. Alors, j'étais toujours fasciné par ça.
Oui, c'est ça. Alors, mais vraiment, cette autre démarche photographique est aussi magnifique. Vous explorez beaucoup le corps. Hein?
Oui, c'est ça. Les corps et
la gestuelle.
Oui,
L'élan du corps.
Oui, les limites des corps. On peut essayer de montrer la psyché humaine qui est vraiment malléable, mais dans les corps. C'est un peu comme de traduire physiquement ce que l'être humain a dans la tête quand ils sont dans une période de détresse ou des choses comme ça.
Ou les pulsions, c'est ça?
Oui, les pulsions, et en même temps, j'essaie de faire les parallèles avec les divinités, les perceptions que certains cultures ont déduites. Mais de quoi ça aurait l'air? Comme c'est comme vraiment similaire à l'homme, mais avec un extra, comme quelque chose qui va inspirer le respect, la peur, quelque chose que je m'imaginerais, si ça apparaît devant moi, je dirais, oh oui, ça c'est quelque chose de plus puissant qu'un être humain.
Oh, d'accord. Alors, je pense que vous n'avez pas terminé d'explorer cette source d'inspiration. Je pense elle est toujours en vous. Vous inspire toujours tout autant. Alors, Victor Vargas Villafuerte, peut-être nous parler un petit peu de votre parcours. Vous avez quand même des études à votre actif. Nous sommes étonnés d'avoir vu que vous avez un baccalauréat en actuariat.
Oui, c'est quand même drôle parce que quand j'ai décidé de déménager à Montréal, j'ai décidé de tout changer. Comme vous savez bien dit, j'ai un bac en actuariat, que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en plus, c'est comme des mathématiques appliquées aux statistiques, finances, des choses comme ça, comme vraiment...
Peut-être que ça nourrit votre approche plutôt engagée comme photographe.
Oui.
Ça peut développer un petit sens critique par rapport au marché, au milieu des... milieu des finances, la société de consommation, par exemple.
C'est ça, parce que mon travail, quand j'étais dans ce domaine, c'était vraiment maximiser l'argent et en plus, sans beaucoup regarder les conséquences que ça avait sur la souffrance ou sur les personnes. Non? Tu maximises l'argent, c'est un peu comme ça qu'on l'apprend. Mais aussi, comme je suis rendu mi-vingtaine, je dis comme, ça ne m'étonne pas d'arriver à 60 ans, avoir plein d'argent, mais pas avoir joui de ma jeunesse.
Alors, vous avez décidé d'opérer un virage vers la photographie. Si vous avez étudié en collège d'Assun.
Oui, c'est ça. Pendant que j'ai fait mes démarches pour déménager au Québec, j'ai commencé avec un atelier en photo à Mexico avec un vraiment bon photographe, Lázaro Blanco. Et après ça, quand j'arrive ici, j'étais comme certaine, comme oui, c'est la photo, c'est le documentaire, parce que j'ai commencé aussi un peu avec des amis au Mexique à travailler avec les documentaires, ça plutôt côté vidéo. Et de là, je suis plongé et vraiment, je regrette pas.
Aucun regret. Non. Et beaucoup de succès à votre actif, hein? Vraiment, félicitations. Vous avez été exposé, vous avez exposé à l'international. Vous avez aussi eu des nominations dans des festivals pour vos films, notamment un documentaire PAL en 2012. Peut-être nous parler brièvement de ce documentaire qui a reçu de nombreux prix.
Oui, c'est là, je l'ai co-réalisé avec mon ami au Mexique, Christophe Müller. Lui, il est suisse, mais on a décidé de collaborer. Et c'est sur la vie d'un enfant dans la jungle au Mexique. C'est un enfant de Maya. Alors, il parle Maya. Alors, je voulais montrer ça. C'était génial, c'est fantastique. Je voulais, un peu comme j'ai essayé de faire avec les travailleurs, c'est comme donner la parole à l'enfant. Alors, c'est un monde des fantasies et vraiment beau. Alors, si vous voulez avoir...
Comment est-ce qu'on pourrait voir ce film?
Vous pouvez le retrouver sur Vimeo. Je peux vous donner l'adresse après, si vous voulez la partager sur votre site. Comme ça, vous pouvez le regarder. Mais au début, c'était comme seulement dans des festivals cinéma, mais maintenant, elle est ouverte à tout le monde pour regarder.
Et en terminant, vous avez été récipiendaire d'un World Sony Photo Award en 2012.
Oui, c'est ça. C'était
pour quelle photo?
Ça, c'était pour une photo des monstres. Alors, c'était de mon autre démarche. C'était un peu montrer des monstres dans des situations de la vie quotidienne. Dans ces cas, c'est une mère avec son enfant, avec son bébé. Mais sont mélangés dans une même créature.
OK, d'accord. Alors, écoutez, félicitations, Victoria Villafuerte. Peut-être une toute dernière question. Quels sont vos projets à venir?
Mes projets à venir, je travaille dans un documentaire sur les sorcières à Montréal. Alors, c'est un groupe de femmes que je trouve vraiment intéressante parce que ça me permet de rentrer un peu dans l'univers du féminin après avoir fait des projets qui étaient 100% masculines. Et je suis fasciné parce qu'on a plein de préconceptions quand on entend sorcière, mais non, c'est vraiment, je dirais, plutôt que des choses négatives ou d'épouvantes, c'est du côté du féminisme, des...
Ah, les sorcières, c'est plus des femmes, des féministes, ouais. Plutôt que des monstres.
Oui, c'est ça, qu'ils sont en contact avec la nature, que des fois, dans la vie moderne, on oublie un peu, alors c'est ça. Je travaille dans ces projets, alors j'imagine dans 200-300, vous allez voir les résultats.
Mais ça semble vraiment, déjà ça pique ma curiosité au plus haut point, vraiment. Merci énormément, Victor Vargas, ça fait la fierté de nous avoir parlé tant de vous, de votre processus d'immigrant, photographe, et de votre exposition en cours à la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal jusqu'au 10 mars. Est-ce qu'il y aura une visite commentée à venir ou c'est déjà terminé?
Vraiment, merci surtout à tous les travailleurs qui m'ont ouvert leur porte de leur maison et m'ont donné. Ben, ont ouvert leur porte de leur corps pour permettre de montrer des choses vraiment difficiles des fois. Alors, c'est surtout un merci pour tous les travailleurs et c'est ça.
Merci encore.